France Inter.
Le journal, Éric Delvaux.
Bonsoir Thomas et bienvenue à tous. Au sommaire ce soir, des millions de manifestants en ce moment dans les villes américaines contre la brutalité de la gouvernance Trump. Nous serons en direct d'Atlanta. À la une également, ce projet de tunnel sous-marin entre la Russie et l'Alaska américaine, projet relancé par les Russes. Donald Trump juge l'idée intéressante. En France, nous irons en Gironde pour l'hommage rendu à Lucia, cette femme morte il y a 10 jours après avoir été frappée par son compagnon. Au chapitre judiciaire, nous verrons dans quelles conditions Nicolas Sarkozy sera incarcéré mardi à la prison de la Santé. Nous ferons le tour de France, des villes dites moches, car il existe chaque année un palmarès pour dénoncer le trop-plein de panneaux publicitaires à l'entrée des villes. Et puis nous terminerons en musique à la Philharmonie de Paris pour un concert spécial ce soir de Zao de Sagazan. Le temps de demain, dimanche, Magali Rochereau, avec une perturbation qui arrive par le nord-ouest.
Oui, Eric, le temps change. Météo France attend de la pluie au nord du pays et du vent dans la partie sud.
Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes.
France Inter.
Parce que l'Amérique estime, une partie de l'Amérique en tout cas, estime que Donald Trump gouverne comme un monarque. Ils sont en ce moment des millions à se rassembler dans 2700 villes américaines. Manifestation sous la bannière No Kings. Et nous rejoignons notre correspondante à Atlanta. Bonsoir Isabelle Labéry.
Bonsoir.
No Kings, car à Atlanta aussi, les manifestants veulent montrer au monde et au pays que les Américains ne veulent pas d'un roi autoritaire et brutal.
Et oui, ils viennent dire leur attachement à la démocratie et à l'état de droit, à leur constitution aussi. Dans la foule très dense, Jennifer, 63 ans, enseignante à la retraite, sur un grand carton qu'elle brandit au-dessus de sa tête, elle a écrit cette phrase à la main. Un jour, le peuple a dit non.
Non, nous en avons assez de ce gouvernement, assez de voir nos droits bafoués, assez de voir nos voisins se faire arrêter dans la rue par des hommes masqués. Un gouvernement autoritaire, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Ça me fait pleurer, je n'aurais jamais pensé voir ça ici.
No king! No king!
Vous savez, nous, les démocrates, on ne contrôle plus rien au gouvernement. Donc, pour nous faire entendre, il faut des manifestations massives, dit Georgia. Donc, on va continuer à se montrer sans avoir peur. Le Parti républicain nous accuse d'être anti-américain. C'est tout le contraire, dit encore un militant des droits civiques. À travers le pays, les organisateurs font tout pour limiter les débordements. L'objectif aujourd'hui est de faire mieux qu'en juin, quand 5 millions de personnes étaient pacifiquement descendues dans les rues.
Isabelle Labéry, en direct d'Atlanta. Donald Trump qui juge intéressante la proposition de la Russie de construire un tunnel sous-marin reliant le territoire russe et l'Alaska américaine. Ce tunnel traverserait donc le détroit de Bering. Bonsoir Camille Magnard.
Bonsoir.
Rédaction internationale de Radio France. Et voilà comment on relance un vieux projet appelé désormais tunnel Poutine-Trump.
Et oui, puisqu'il s'agit bien de symboliser l'amitié retrouvée entre les deux présidents et leurs deux pays, comme l'instigateur du projet Kirill Dimitriev, qui est l'émissaire de Vladimir Poutine auprès de Donald Trump, l'a expliqué. C'est lui qui, juste après le long coup de fil de jeudi soir entre les deux chefs d'État, a exhumé ce rêve de géographe vieux de 150 ans, creuser un tunnel ferroviaire sous le détroit de Bering, 112 km de long, 8 années de construction, budget affiché 8 milliards de dollars et un chantier, proposent les Russes, qui ont bien compris qu'il faut parler business avant tout aux Américains, qui serait confié à une société de BTP propriété d'Elon Musk. Ce tunnel, disent encore ses promoteurs russes, symboliserait une forme d'unité des deux côtés du Bering. Il permettrait d'exploiter aussi ensemble les ressources naturelles de la région. Alors tout ça reste encore très chimérique, mais c'est vrai que Donald Trump, qui est depuis 2 jours revenu dans des dispositions plutôt favorables envers la Russie, a jugé le projet intéressant hier dans le bureau ovale, en présence, il faut le dire, de Volodymyr Zelensky, qui lui a clairement dit que ce rapprochement russo-américain, c'est un euphémisme, ne le ravirait pas.
Camille Magnard, rédaction international de Radio France. Au Maroc, malgré la répression, la jeunesse continue de réclamer du changement contre la corruption pour un meilleur accès à la santé et à l'éducation. Depuis quelques minutes, des sit-ins, annoncés comme pacifiques, sont organisés dans plusieurs villes marocaines. Exemple à Casablanca, où l'on vous retrouve, Sédic Alfi, bonsoir.
Oui, bonsoir, bonsoir à tous.
Les premiers rassemblements viennent de se mettre en place.
Oui, alors encore très peu de monde ce moment réuni ici, place Maréchal à Casablanca, où le collectif Gen Z a prévu de se rassembler. Premier rendez-vous après 10 jours de pause et aussi après les condamnations qui sont tombées pour les émeutiers d'Agadir. 17 accusés qui ont écopé, je le rappelle, entre 3 et 15 ans de prison ferme pour l'attaque d'une gendarmerie il y a 2 semaines. Alors ce soir, les sit-ins sont prévus dans les principales villes du Royaume. Les manifestations avaient marqué une pause, comme je le disais, et ils attendaient d'entendre le discours royal d'abord, mais aussi et surtout de voir quelle sera la réponse gouvernementale. Aziz Arnouch, le Premier ministre, a demandé à ses ministres d'aller au contact et d'accélérer les réformes. Alors pour rappel, ici au Maroc, on est à pile 1 an des élections législatives, donc les jeunes et les manifestants semblent pour le moment peu convaincus par les premières annonces de Aziz Arnouch. Ils ne veulent pas attendre le fruit des réformes, ils souhaitent des résultats immédiat.
Sédic Alfi en duplex de Casablanca. En Tunisie, des dizaines de personnes ont été arrêtées à Gabès et dans le sud tunisien. Elles avaient pris le risque, ces personnes, de manifester pour réclamer la fermeture d'une usine chimique très polluante qui utilise de l'acide sulfurique, de l'ammoniac pour fabriquer des engrais à base de phosphate. Plusieurs élèves d'une école riveraine auraient d'ailleurs fait des malaises avant d'être secourus.
France Inter, Éric Delvaux.
Depuis le début de l'année, 127 femmes sont mortes en France sous les coups de leur conjoint. Il y a 10 jours encore, en Gironde, une femme de 44 ans, Luciane, a succombé à ses blessures frappées par son compagnon. Elle était restée dans le coma durant 1 mois et demi. Eh bien, pour lui rendre hommage, aujourd'hui, 150 personnes se sont rassemblées en Gironde, à la Teste de Bûche précisément, c'est la commune où elle vivait. Reportage d'Anaël Cagnon.
Sur le parvis de l'hôtel de ville, les proches de la victime, Luciane, sont absents. Ils habitent en Espagne, mais c'est en pensant à eux que les associations ont organisé ce rassemblement.
Que son fils et ses proches sachent qu'elle n'est pas oubliée.
Derrière ses lunettes de soleil, Laurie a bien du mal à retenir ses larmes. L'ex-conjointe du compagnon de Luciane serre une rose rouge dans ses mains, elle qui avait déjà déposé plainte contre lui pour des violences.
J'ai été victime il y a un peu plus d'un an et demi. La rose rouge, c'est pour Luciane. Je lui dois une vie.
Parce qu'il y a un an, c'est ma fille qui m'a sauvée et ça aurait pu être moi.
Aujourd'hui, sa procédure patine.
Elle n'a pas été poursuivie, il faut continuer à y croire.
C'est aussi avec l'espoir qu'on ne laisse plus passer ces violences que cette habitante du bassin s'est rendue au rassemblement.
Je m'appelle Isabelle et je suis là parce que ce qu'elle a vécu, je l'ai vécu. Je suis restée avec quelqu'un qui m'a tapé pendant 15 ans et je pense que si on était un peu plus pris au sérieux quand on dit qu'on nous arrivait quelque chose, ce serait déjà pas mal.
Du côté des associations, on insiste, le féminicide de Luciane n'est pas un simple fait divers et il y a urgence de mettre des moyens. Adeline Boiteau est responsable de Solidarité Femmes Bassin.
Que tous les acteurs soient formés aussi à cette spécificité des violences conjugales, surtout la justice. Dans cette affaire-là, n'oublions pas que monsieur a quand même une plainte contre lui pour des faits de violence.
Pour l'heure, le compagnon de Luciane est mis en examen par la justice. Justice qui a fait le choix de ne pas le placer en détention provisoire.
Anaël Cagnon, ici Gironde. On connaît ce soir un peu mieux les conditions de détention de Nicolas Sarkozy quand il séjournera à la prison de la Santé à partir de mardi. D'après France Info Télévisions, l'ancien président sera incarcéré seul dans sa cellule, dans une aile de la prison de la Santé où il ne croisera aucun détenu. Il ne rejoindra donc pas le quartier VIP. Le juge des libertés aurait donc estimé que sa sécurité serait mieux assurée s'il n'était pas au contact des autres prisonniers. Et sur les réseaux sociaux, les 3 fils de Nicolas Sarkozy, Pierre, Jean et Louis, appellent à un rassemblement mardi prochain à Paris pour soutenir l'ancien président. Mais pourquoi le Sénat a-t-il donc renvoyé au calendrier grec les 2 propositions de loi qui devaient être débattues à partir de lundi, l'une sur l'aide à mourir, l'autre sur les soins palliatifs, officiellement à cause d'un risque de saturation au Parlement, puisqu'il y a urgence à faire voter le budget de la France avant la fin de l'année. Or, le député centriste Olivier Falorni, inlassable défenseur d'une loi sur la fin de vie, évoque surtout un lobbying de la droite sénatoriale et il relance l'idée procède à un référendum. Référendum promis par Emmanuel Macron en cas d'enlisement au Parlement.
Il y a urgence et ne pas reconnaître l'urgence, c'est une forme d'indécence. Vous savez, il y a une forme de sabotage qui ne dit pas son nom. En tout cas, c'est l'organisation méthodique de l'enlisement et il faut en sortir maintenant très vite. De nombreux présidents de groupe au Sénat, qu'ils soient de gauche ou du centre, sont intervenus pour que le débat ait lieu. Mais le groupe LR majoritaire, qui est réfractaire à l'ouverture d'un droit à l'aide à mourir, fait tout pour que ce débat n'ait pas lieu. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas afficher leurs convictions, leur vote, alors que c'est le rôle même d'un parlementaire. Donc moi j'en appelle à l'exécutif, parce que le gouvernement a des semaines dédiées. Ils peuvent inscrire dans l'ordre du jour du Sénat ces deux textes importants. Et si ça ne devait pas être le cas, eh bien peut-être qu'il faut maintenant recourir au référendum.
Olivier Falorni, député à Apparentés Modem, invité de France Inter à la mi-journée. C'est un peu le pendant des plus beaux villages de France, mais version moche. Comme chaque année, l'association Paysages de France publie son palmarès des villes laides, notamment les entrées de villes visuellement polluées par les panneaux publicitaires. Et ce palmarès des villes moches n'est pas simplement potache. Bonsoir Faustine Calmel.
Bonsoir.
Ce concours de laideur ordinaire, il veut surtout convaincre les élus de préserver l'espace public.
Car ce sont eux, les maires, qui ont désormais le pouvoir de police de la publicité et donc celui de faire disparaître ce que l'association considère comme des verrues dans le paysage. Exemple, une énorme publicité en plein champ près de Bernay, dans l'Eure, hors agglomération, où c'est interdit. Le reste, c'est Jean-Marie Delalande, président de Paysages de France, qui nous le détaille.
Alors, il y a une enseigne très particulière, c'est celle de Limoges. Je pense qu'elle fait dans les 20 ou 30 mètres de haut et qui est limitée à 6,50 mètres. Donc là, on voit qu'il y a un dépassement important. La troisième photo, c'est un panneau numérique devant l'église de Saint-Gervais en Vendée.
Un dernier prix pour une forêt de panneaux le long d'une nationale à Vendargues dans l'Hérault. Alors le but n'est pas, promet l'association, de stigmatiser ces communes, mais de les pousser à réagir.
Les prix de la France moche, ils ont pour objectif de faire prendre conscience au grand public qu'il existe un code de l'environnement, qu'il existe des lois, des règlements, et que ça doit être appliqué. Il y a énormément de dispositifs qui sont en infraction.
Et quand c'est légal mais moche, alors il faut convaincre. Peu d'espoir pourtant de voir les choses changer rapidement, parce que ces publicités sont soumises à une taxe qui renfloue les caisses des communes. En moyenne, 75 000 euros par an en 2023, selon un rapport de la Cour des comptes.
Faustine Calmel, cette information pour les passionnés de wagons, de bus et autres motrices. La RATP annonce l'ouverture à l'horizon 2032 d'un musée des transports en commun de Paris. Ce sera dans le 18e arrondissement. Le futur site présentera une centaine de véhicules emblématiques du réseau francilien, notamment la première rame de métro parisien fabriquée en bois. L'équipe de France de tennis de table qualifiée pour la finale des championnats d'Europe par équipe qui se dérouleront, la finale se déroulera en Croatie demain. Aujourd'hui, les Bleus ont renversé l'Allemagne. C'est l'un des poids lourds de la discipline. La France, emmenée par les frères Lebrun et Simon Gauzy également, la France tentera donc demain de remporter ce titre qui leur échappe depuis 27 ans. On va terminer en musique avec cette première ce soir pour la Philharmonie de Paris. Un concert en audio description destinée donc aux malvoyants et aux aveugles. La chanteuse Zao de Sagazan sera accompagnée de l'Orchestre National d'Île-de-France. Et la question, Victor Vasseur, est de savoir comment ces personnes en situation de handicap vivent un concert.
Aveugle depuis la fin de son adolescence, Pierre, 38 ans, a déjà assisté à des pièces de théâtre et des opéras en audiodescription, mais jamais de concert.
Ça nous aide à vivre le concert complètement. Encore une fois, si on se déplace à la Philharmonie, c'est pour avoir autre chose que d'écouter le même concert sur une très bonne chaîne stéréo dans son canapé.
Comme une vingtaine d'autres spectateurs aveugles et malvoyants, Pierre portera ce soir un casque qui n'englobe pas totalement l'oreille pour lui permettre d'écouter le concert en direct, de suivre les commentaires et surtout de se projeter.
Il y a aussi une mise en scène qui est faite soigneusement et qu'elle a aussi du sens pour l'artiste, donc c'est normal que nous, en tant que spectateurs, on puisse aussi en profiter.
Dans son casque, Pierre entendra Jérémy Tourneur, le narrateur en charge de la description, isolé dans une cabine, avec vue sur la scène.
Je vais décrire les déplacements, je vais décrire les attitudes, les regards. Donc j'essaye de garder une sorte de respecter un peu le tempo du concert, de placer les phrases au bon moment pour que ça rentre un petit peu dans le groove de la musique et que ça ne coupe pas l'écoute des participants.
Jérémy reviendra pour 3 autres concerts en audio description à la Philharmonie, avec notamment l'Opéra Carmen, début novembre.
Concert en audio description, donc ce soir à la Philharmonie de Paris. Le temps.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonsoir Magali Rochereau.
Bonsoir Eric.
Avec déjà quelques gouttes ce soir du côté de la Bretagne.
Oui, elles sont annonciatrices du changement de temps pour demain. Demain où la perturbation va se décaler peu à peu sur le centre du pays, avec de la pluie aussi côté Grand Est et des entrées maritimes tout au long de la journée au-dessus du golfe du Lion. L'après-midi, c'est un ciel de traîne qui se met en place au-dessus du Finistère et de la pluie en soirée pour la capitale. Plus au sud du pays, le vent se renforce. Vent d'autant côté Pays Basque, littoral basque et crête pyrénéenne. Et vent de sud à 60-80 km par heure dans la vallée du Rhône et le Val-de-Saône, qui devrait enfin dissiper les grisailles.
Et les températures minimales sont à la hausse, au moins sur la moitié ouest.
Et oui, Météo France y prévoit 8 à 12 degrés et jusqu'à 14 à 16 près des côtes. Sur la moitié est, elles sont stationnaires et fraîches, entre 1 à 5 degrés. Tandis que l'après-midi, le thermomètre varie de façon générale, entre 15 à 20 degrés. Vous aurez davantage dans le sud-ouest et en Corse, au-dessus de 25. Et Météo France prévoit pour lundi de forts cumuls de pluie du côté de la région PACA.
Les prévisions de Magali Rochereau.